bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter. Dans un instant, retour sur la semaine avec le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis, jusqu'à quand l'écologie sera-t-elle souriante? L'expression est de Yannick Jadot. Ne faudrait-il pas changer radicalement nos modes de vie, nos systèmes de production, le système économique pour éviter la catastrophe annoncée par certains? Et pour le dire très simplement, peut-on encore faire appel à la responsabilité de chacun d'entre nous? Ou faut-il maintenant en passer par la loi pour interdire certains comportements, certaines pratiques, certaines des activités qui ont le plus d'impact sur l'environnement? À quel moment faudra-t-il cesser de sourire? Nous en débattrons avec Daniel Cohn-Bendit. Mais tout de suite, le duel.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Le grand face-à-face avec la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Et le directeur de la fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver les amis. La rentrée politique a eu lieu comme la rentrée des classes. Je ne sais pas ce que les élèves ont en tête, mais les politiques ont la tête au municipal du printemps prochain. Et notamment pour la conquête de Paris. Paris à tout prix, c'était le titre d'un film. Et c'est en tout cas l'espace où l'on a vu s'exprimer la première dissidence au sein de La République En Marche avec cet homme, Cédric Villani, qui annonçait ceci.
J'ai la conviction que nous pouvons refaire de Paris cette ville accueillante, quelle que soit notre provenance, notre condition, nos ambitions. C'est pourquoi je vous annonce, ce 4 septembre, que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris.
C'est pas aussi beau que c'est notre projet, mais la voix a été poussée par le mathématicien et député La République En Marche qui se présenterait, se présentera en dissident pour conquérir Paris face donc à Benjamin Griveaux qui lui a été désigné par La République En Marche. Que vous inspire cet épisode, Gilles ?
Je crois que cette dissidence, elle a des effets politiques dont certains sont certains ou immédiats, c'est que, à l'évidence, c'est une mauvaise nouvelle pour Benjamin Griveaux, dont l'image était déjà dégradée, dont l'entrée en campagne a été difficile et qui voit en plus son espace réduit. Mais c'est une mauvaise nouvelle aussi pour La République En Marche, qui à Paris, évidemment, ce n'est pas rien, se retrouve avec deux candidats.
C'est le cœur du réacteur électoral
au parti, mais c'est de surcroît une jurisprudence pour les autres villes dans lesquelles il y a déjà des difficultés de désignation. Donc, l'effet certain, c'est celui-là. Mauvaise nouvelle pour Benjamin Griveaux, mauvaise nouvelle pour La République En Marche.
Bonne nouvelle pour Anne Hidalgo.
Ce faisant, bonne nouvelle pour Anne Hidalgo. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de plus incertain, mais dont on peut avoir l'intuition, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de candidats, il y a peut-être trop de candidats, et donc il va falloir attendre avant que l'offre électorale soit fixée. Et puis il y a quelque chose de très incertain sur Villani lui-même, c'est quel va être son positionnement, quel va être son projet, quelles vont être ses alliances, à quel électorat va-t-il s'adresser. Tout cela, pour l'instant, on ne le sait pas du tout.
Natacha Polony.
Je pense que il y a en effet, enfin, la première bonne nouvelle pour Anne Hidalgo, c'était la désignation de Benjamin Griveaux par La République En Marche, qui était quand même un superbe cadeau. Avec en plus cette désignation à l'unanimité, ce qui était aberrant dans le sens où c'était une forme d'humiliation pour un Cédric Villani qui avait joué le jeu véritablement et dont on pouvait sentir qu'il avait une ambition et une ambition extrêmement construite. Ensuite, ce qui est problématique, c'est le fait de voir en effet Cédric Villani prendre Emmanuel Macron à son propre jeu. C'est-à-dire lui rappeler que le macronisme avait pour promesse principale, même à peu près la seule puisqu'il n'y avait pas vraiment de programme ni quoi que ce soit, mais pour promesse principale de mettre fin à cette république des partis, à ces arrangements dits de l'ancien monde, et que finalement, la désignation de Benjamin Griveaux, elle s'inscrivait là-dedans.
L'appareil politique, La République En Marche, fonctionne comme les partis de l'ancien monde.
Mais bien entendu, et Cédric Villani fait du macronisme et envoie le macronisme à la figure d'Emmanuel Macron.
Alors, pour partie, Natacha a raison. Oui, c'était l'un et l'autre des outsiders. Oui, l'un comme l'autre était dans la critique du jeu politique existant. L'un comme l'autre se sont affranchis de ceux qui les avaient fait naître, François Hollande d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. Mais il y a au moins deux différences. Il y a dans la démarche, Cédric Villani a accepté cette procédure avant d'en refuser le résultat. Et Emmanuel Macron n'a pas participé aux primaires de la gauche. Et puis par ailleurs, la situation politique aujourd'hui à Paris, je crois, est très différente de la situation politique nationale de l'époque.
Nous sommes bien d'accord.
Différente, malgré tout, la situation politique à Paris depuis l'élection présidentielle, c'est que La République En Marche y est très majoritaire. Les Français, les Parisiens ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron, pour les candidats de La République En Marche aux législatives et aux dernières élections européennes, massivement pour la liste La République En Marche. Donc est-ce que les jeux sont faits? Ils ont déjà gagné, au fond, la bataille Paris à tout prix, Gilles?
Non, je ne le crois pas. Ce que je vais dire pour Paris le vaut pour beaucoup d'autres villes. Personne aujourd'hui ne peut dire comment ces forces nationales que vous avez évoquées et qui sont justes et qu'on a vu encore aux élections européennes, comment ça se traduit au niveau municipal dans lequel l'implantation, le travail des sortants, leur relation personnelle avec le maire a une importance qui n'existe pas pour les élections nationales.
Non, mais on a une sociologie parisienne qui est assez claire, c'est-à-dire que toutes les classes possédantes qui avaient voté massivement pour François Fillon en 2017 ont voté massivement pour La République En Marche aux européennes, c'est-à-dire pour les défenseurs de l'ordre social face à la révolte des Gilets jaunes. Pendant que ceux qui avaient voté massivement pour Emmanuel Macron, parce que tout l'Est parisien avait voté pour Emmanuel Macron en 2017 sur le thème une option de gauche, novatrice, etc., ont voté pour les écologistes pour ne pas donner un quitus à un Emmanuel Macron qui a perdu sa jambe gauche.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Aujourd'hui, toutes les questions sont sur la table de cette réforme. Et donc, on ne va pas dire « on concerte » pour dire « en fait, on a déjà la solution à la concertation ». On va en fait négocier avec les organisations syndicales. Les principes qui sont intangibles, c'est qu'on souhaite que ce régime futur soit un régime par répartition. Mais à quel Français vous allez faire croire qu'avec l'allongement de la durée de la vie, on va travailler moins longtemps?
Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui était l'invitée du grand entretien jeudi à 8h20 sur notre antenne. Elle était interrogée donc sur la question de la réforme des retraites avec l'invitation à lire très attentivement le rapport Jean-Paul Delevoye, haut commissaire qui vient de faire son entrée au gouvernement et qui est donc en charge de négocier cette retraite. On a entendu les mots concertation, négociation, syndicat dans la bouche d'une ministre d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire pour le coup qu'il y a un changement de méthode, Gilles Finkelstein?
Sur ce sujet-là, peut-être pas, parce que s'il y a un sujet sur lequel, depuis l'entrée en fonction du président de la République, il y a eu un travail de concertation, c'est plutôt les retraites que sur les autres. Jean-Paul Delevoye, depuis des mois, a fait ce travail de concertation avec les syndicats. Là, ils le poursuivent pour des raisons qui sont à la fois des raisons tactiques pour essayer de gagner du temps par rapport au municipal, mais pour des raisons de fond qui sont des raisons qui sont estimables. C'est un sujet sur lequel qui engage le cœur du pacte social et pour lequel il serait souhaitable d'essayer de trouver un compromis plus large que seulement celui de la majorité.
Sujet explosif, si on se souvient des grandes manifestations sous Nicolas Sarkozy lors de la précédente grande réforme des retraites, Natacha.
Pour le dire un peu plus brutalement que Gilles, Sibeth Ndiaye a sorti les avirons jeudi matin sur France Inter, dans le sens où elle-même était incapable de dire sur quelle base allait se passer cette concertation qui faisait suite à une concertation, puisque déjà, tout le travail de Jean-Paul Delevoye, c'était de faire une concertation. On pensait que c'était fini. Donc là, on repart en concertation. Bien sûr qu'il y a le côté tacticien, mais il y a derrière cela aussi une difficulté à dire les choses clairement. C'est-à-dire qu'un collectif publié par Le Parisien, le collectif Réforme des retraites, a rechiffré par exemple les cas concret dont parlait l'équipe de Jean-Paul Delevoye. Eh bien, le résultat, c'est que, en gros, par rapport à la génération précédente, ceux qui partiraient à la retraite avec cette réforme perdraient 20%. Ça fait quand même très mal.
Oui, je crois que pour l'instant, par définition, puisqu'on n'en est pas encore au projet de loi, on ne connaît pas les modalités précises. Moi, je crois.
Installe malgré tout l'idée qu'il faudra cotiser plus longtemps.
Je crois d'abord, j'ai un intérêt sur le principe de cette réforme. C'est-à-dire qu'on reste dans la répartition, mais le système par points permet d'améliorer la justice à l'intérieur d'une génération et d'être plus adapté à la mobilité des carrières. Ce sur quoi il faut être très vigilant, et ça va être l'objet des négociations et de la concertation citoyenne, et donc on verra au bout c'est quelles sont les modalités précises, quel système de solidarité et quel système de financement.
Et je compte sur votre vigilance puisque nous aurons évidemment l'occasion de discuter de ce sujet important et qui nous concerne tous. À suivre dans le Grand Face-à-Face, le débat avec Daniel Cohn-Bendit.
France Inter, le Grand Face-à-Face. Le débat.
L'écologie en débat aujourd'hui dans le Grand Face-à-Face. L'écologie politique, jusqu'à quand l'écologie sera-t-elle souriante? L'expression est de Yannick Jadot. Ne faudrait-il pas changer radicalement nos modes de vie, nos systèmes de production pour éviter la catastrophe annoncée? Pour le dire très simplement, peut-on encore aujourd'hui faire appel à la responsabilité de chacune, de chacun d'entre nous? Ou faut-il maintenant en passer par la loi pour interdire certains des comportements, des pratiques, des activités qui ont le plus d'impact sur l'environnement pour en discuter, l'une des grandes figures de l'écologie politique en France et en Europe. Bonjour Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour monsieur.
Et bienvenue, vous avez le sourire, un grand sourire, mais l'écologie peut-elle être encore souriante? Je reprends l'expression de Yannick Jadot.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc en tout cas en tant que personnalité politique, on peut être presque toujours souriante. Pas toujours, parce qu'il y a des fois des moments où on se dit, là, ce qui se passe, ça va pas. Mais franchement, ça veut rien dire.
Ça ne veut rien dire.
Ça veut
si
rien
je dois
dire.
Mettre les sous-titres, en tout cas la manière dont nous l'avons compris dans Questions politiques dimanche dernier, ça voulait dire très simplement que l'écologie, pour s'imposer, ne devait pas être punitive, qu'elle ne devait pas être coercitive et qu'elle devait, au fond, en faire appel à la responsabilité de chacun, modifier nos comportements, faire des petits pas et tous ensemble, on y arrivera.
Oui, il faut changer nos comportements. Oui, il faut changer nos modes de vie. Et oui, il y a des lois, il faut imposer des choses. On peut, si on interdit le glyphosate, ce que veut Yannick Jadot, ce que veulent les écolos,
oui.
Ben, il y a des paysans qui souriront pas. Je dis pas que ça soit faux. Je dis comment on fait avec eux, comment ils arrivent à, justement, se protéger sans glyphosate. Il y a des décisions à prendre. Ça se fait par la loi. Et donc, quand la loi se fait, il y a des gens qui sont pas d'accord.
Mais pour modifier les comportements, par exemple, prenons l'un des cas d'école dont on a beaucoup discuté ces dernières semaines, inspiré par des pratiques suédoises, notamment ne plus prendre l'avion quand on peut faire le voyage en train ou par un mode de transport plus écologique. David Cormand, le patron d'Europe Écologie Les Verts, était jeudi sur notre antenne et il disait que partir en week-end à Lisbonne, c'était aberrant. Lisbonne, c'est aberrant, il faut que ça coûte le véritable prix. Si on veut devoir prendre l'avion, si on veut prendre l'avion, alors il faut que le tarif des billets soit beaucoup plus élevé. Ce sont déjà les riches qui prennent l'avion pour un week-end à Lisbonne. Mais est-ce qu'il faudrait pas la loi pour l'interdire ?
Non, c'est pas vrai. Vous avez des billets, et là, Cormand pose un vrai problème, vous avez des billets pour aller à Lisbonne ou à Berlin qui coûte 45-50 €. C'est pas vrai. Je prends Lisbonne de Paris ou Berlin, c'est à peu près la même chose. Vous vous baladez dans Berlin, vous voyez le nombre de jeunes Français, c'est pas des riches. Alors est-ce qu'on
l'argument
doit...
L'argument de David Cormand, c'est qu'il y avait malgré tout les hôtels, il y a la nourriture sur place, donc ce sont déjà les riches au fond qui partent à Berlin et que donc il faudrait
non,
les taxer.
Non, c'est pas
davantage.
Vrai, parce qu'il y a toute une histoire et on peut le remettre en cause, hein. Mais avec Airbnb et tout ça, si vous y allez à 7 ou 8, l'appartement vous coûte à Berlin et en Union, ça fait pour un week-end 50 €, 60. Donc vous pouvez remettre en cause Airbnb, avec raison peut-être. Je veux simplement dire que dans le monde actuel, il y a des possibilités de passer un week-end où ce n'est pas simplement pour les riches. Et de toute façon, si Cormand a raison et que vous mettez au prix réel le billet d'avion pour Lisbonne, ou pour Berlin, les riches s'en foutent. Parce qu'ils peuvent le payer. Donc ça peut pas être l'argument. Ça peut pas être l'argument. L'argument, la difficulté, c'est effectivement, est-ce qu'on doit, aujourd'hui, est-ce qu'il faut ralentir notre vie et que c'est peut-être une hérésie de passer, d'aller un week-end à Lisbonne. Moi, je veux bien en discuter. Pendant longtemps, le voyage était le privilège des riches. Et aujourd'hui, le voyage n'est plus simplement le privilège des riches. Donc il faut savoir ce qu'on veut.
Déjà là, on a abordé énormément de sujets qui semblent connexes, mais qui en fait rejoignent un petit peu le nôtre. Par exemple, on se met à évoquer Airbnb, la question du modèle économique d'Airbnb, la question de savoir si Airbnb paye suffisamment d'impôts. Vous savez qu'en France, Airbnb paye autant d'impôts que 8 professeurs agrégés en fin de carrière. J'avais fait le calcul à l'époque, il y a 2 ans, quand le chiffre était tombé, c'est-à-dire qu'en gros, ils payent rien, quoi. On se fout du monde. Ça n'est pas un hasard si on se retrouve dans un système où le tourisme de masse est aujourd'hui disons, amplifié et s'il est souhaité par une multinationale comme Airbnb qui ne paye pas ses impôts, qui ne joue pas le jeu de la mise au pot commun et de la, donc de la participation au bien commun. Tout ça pour dire que la question de savoir si l'écologie doit être souriante ou pas souriante est aberrante, et tant que des écolos formuleront les choses comme ça, ce sera consternant. La question est de savoir si on peut penser les choses politiquement au sens le plus noble du terme. Il me semble que le problème n'est pas de savoir si on va punir les gens, si on va les rendre malheureux, mais la question est de savoir comment une société peut émanciper les individus pour qu'ils trouvent leur bonheur et leur liberté dans autre chose qu'une surconsommation de produits qui sont des produits éphémères et qui polluent la planète. Donc, il faut penser les choses à partir de ce qu'on veut pour les êtres humains.
Bien sûr que ça met du temps. C'est ça le problème. Le problème, il est, moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut ralentir. Seulement, toutes les mesures que nous proposons qui sont justes, taxer le kérosène, les prix réels et tout ça, ce ne seront pas les riches qui auront des difficultés avec ça. Ce sont ceux qui sont des classes moyennes, des étudiants qui profitent justement, comme tu viens de le décrire sur Airbnb, qui profitent de cette situation, mais qui leur donnent la possibilité de faire que s'ils n'ont pas Airbnb, il n'y a que les riches qui peuvent se payer les hôtels.
Oui, mais dans une société où on organise de la redistribution et où on ne creuse pas les inégalités par un système de dérégulation, on évite aussi que les riches aient tous les privilèges. Donc oui, c'est un ensemble de politiques économiques, sociales.
Oui, moi, tout ça c'est vrai, mais ça met très longtemps. Donc je dis, l'écologie, c'est pas le problème si elle soit souriante ou pas, elle doit être responsable. Et elles doivent poser des problèmes à la société, de dire voilà, pour nous en sortir, nous avons à prendre ensemble certaines décisions. Et ces décisions sont des fois très difficiles à prendre, parce qu'elles remettent en cause quelque chose. C'est vrai qu'il faut trouver des satisfactions autres que la surconsommation. Mais maintenant, entre la surconsommation...
Quel mot est-ce que vous employez ? Sobriété ? Décroissance ? Gilles Finkelstein ?
J'en emploie un autre. Je trouve qu'on est passé en quelques années d'une opinion qui était indifférente à la question écologique à une opinion qui est dans l'urgence. En très peu de temps. Oui. Et que, de fait, on doit procéder à une remise en cause, à une remise profonde de nos modes de production et de nos modes de consommation. Et que la question n'est pas de savoir si l'écologie doit être souriante ou pas souriante. C'est est-ce qu'elle peut et rester démocratique. Et je crois que c'est ça l'enjeu. Quand on dit souriant, c'est-à-dire imposer, y compris imposer à une majorité.
Oui.
Et donc la question, c'est comment on organise le débat démocratique pour que l'opinion puisse procéder soit par la responsabilité individuelle, soit par la loi, et il y aura besoin des deux, aux choix qui sont nécessaires et aux réorientations qui soient nécessaires. Si on prend la question des transports, qui est en France une des questions absolument majeures, puisque le nucléaire fait que, par rapport aux autres pays, c'est moins dans le domaine de l'énergie que dans le domaine des transports que nous sommes des émetteurs. La question de l'avion est une question qui est marginale. En revanche, la question de l'automobile est une question qui est centrale. Et il y avait une étude qui a été publiée cet été par France Stratégie qui a été édifiante de ce point de vue-là. On se demande, mais pourquoi, alors que les constructeurs font des progrès absolument considérables, pourquoi est-ce qu'on émet en France davantage de CO2?
Quelle est la réponse?
Quelle est la réponse? Pour une petite partie, parce qu'il y a moins de diesel et que le diesel, c'est mauvais pour les particules fines, mais c'est meilleur pour le CO2. Mais la grande raison, c'est pas celle-là. La grande raison, c'est les SUV. C'est que l'explosion des SUV qui sont plus lourds consomme davantage. Et ben donc ça, il faut mettre ça dans le débat public et puis voir
l'interdire
les comportements.
Non, Daniel Cohn-Mendes. Interdire les SUV dans les villes. Oui, et c'est punitif. Oui. Oui. Et je ne vois, mais je ne vois
et
pas.
Ben là,
pourquoi.
Vous n'avez plus le sourire aux lèvres. Mais c'est une forme d'écologie qui cesse d'être souriante. On interdit, on punit.
J'ai le sourire, mais alors là, narquois, interdire les SUV dans les villes. Alors vraiment, moi, ça me fait sourire, là.
Oui.
C'est tout bénef. Je veux dire par là. L'écologie nous dit, si nous voulons sauver la planète, donc nous sauver nous, il faut qu'on change, parce que dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera absolument notre planète inhabitable.
Oui.
Le problème, il est que la démocratie ne connaît pas ce temps long. La démocratie, c'est l'immédiateté, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, comment, collectivement, nous apprenons à prendre en compte le temps long, et ça d'une manière démocratique, c'est-à-dire de faire émerger des politiques qui seront majoritaires pour justement répondre à la nécessité du temps long.
Moi, ce qui me gêne, là-dedans, c'est qu'on entend cette petite musique qui consiste à dire, en fait, les peuples n'ont pas conscience de tout ça, confions ça à des experts qui, eux, ont le sens du temps long. Dire la démocratie n'a pas le sens du temps long me semble totalement faux. Le problème n'est pas là. Le problème, juste une chose.
Mais pas totalement faux.
Non, juste une chose. Le problème n'est pas là. Il est dans les armes que nous utilisons collectivement pour lutter. C'est pour ça que j'insistais sur la question de l'émancipation, parce que il n'y a pas de démocratie sans émancipation et sans capacité des individus à être libres, à maîtriser leur destin. Or, là, nous sommes dans un modèle qui est profondément aliénant, qui empêche cela. Mais qui a voulu ce modèle? Parce que c'est bien gentil de dire que la démocratie n'a pas le sens de l'immédiateté, mais
c'est l'immédiateté.
Donc en gros que les peuples n'ont pas le sens du temps long.
Je termine. Je n'ai jamais dit ça.
Il y avait ça un tout petit peu. Or, il me semble que quand on regarde les statistiques, quand on regarde les chiffres, des personnes qui pratiqueraient, qui bouleverseraient leur mode de vie pour pratiquer vraiment toutes les règles de l'écologie pure dans leur vie, n'auraient un impact que, enfin, ne réduiraient que de 25% leur empreinte carbone. Ce sont des études qui ont fait.
C'est donc ça si veut dire que tout le reste, voilà, mode de
si
vie
en gros,
vers
si on supprime tout ce qui est polluant, ça joue sur 25%. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème est beaucoup plus vaste. Il est politique. C'est l'ensemble du système économique que nous avons mis en place, qui est un système de libre-échange, de division mondiale du travail, qui a construit des espèces de monstres où on déplace, où on ramasse. Non, c'est pas de l'idéologie. C'est pas de l'idéologie, c'est du constat. C'est-à-dire que là, quand vous dites il ne faut pas faire de l'idéologie, vous nous dites on garde le système tel qu'il est, et puis on va dire aux gens qu'ils vont être gentils, avancer par petits pas.
Vous dites ce que je dis, que je ne dis pas. Moi, je n'aime pas ce genre de discussion.
Mais alors, ne me dites pas que je fais de l'idéologie quand j'essaie de réfléchir sur une échelle plus large.
Quand j'essaye de dire, et moi je suis d'accord qu'il faut changer de système économique et tout ça, mais que nous vivons dans une société qui a appris à se satisfaire de ce système économique. Et à peu près tout le monde, plus ou moins. Et que donc changer de système économique, ça veut dire changer de mode de vie. Et ça, cela interpelle tout le monde. Je donne un exemple très clair pour ne choquer personne en France. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de continuer aujourd'hui à extraire du charbon en Allemagne et de faire des usines. Il n'y a aucune raison. Sauf que il y a 300 000 personnes qui travaillent là-dedans et que l'on ne veut pas mettre au chômage tout de suite. Et que ces gens ont voté aux dernières élections pour que ça n'arrive pas pour l'extrême droite. Je dis par là que il y a une angoisse devant les changements nécessaires. Je dis pas les autres. Moi, je peux vous dire je.
Vous l'avez,
moi,
cette angoisse?
Oui, bien sûr que j'ai une angoisse.
Cette peur?
J'ai une angoisse pour, oui, j'ai une angoisse parce que j'ai pris mes habitudes. Je trouve agréable. Par exemple, l'autre jour, on me demande, est-ce que vous avez mauvaise conscience quand vous prenez l'avion? Je dis, je prends pas l'avion entre Paris-Francfort, Paris-Bruxelles, je prends pas. Mais si j'ai envie d'aller à New York, je prends l'avion. Alors on peut me dire, pourquoi t'as envie d'aller à New York, espèce de crétin? Reste, va à Trifouille-l'Isoie. Pourquoi tu... Parce que j'aime New York. Voilà. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas aimer New York. Peut-être
mais le choix
que c'est
symbolique
trop...
de Greta Thunberg d'y aller, par exemple, sur un voilier...
Mais j'ai pas envie de perdre trois semaines, mais parce que j'aime pas le voilier, j'aime pas le bateau, j'ai le mal de mer, et qu'on va pas m'empêcher d'aller... Enfin, il faut arrêter, non. Moi, que Greta Thunberg fasse quelque chose pour démontrer qu'on peut le faire très bien, mais moi, je suis contre tous ceux qui disent « mais toi, tu dois faire la même chose ».
Alors, Gilles, d'abord, pour revenir sur ce débat sur l'urgence et la démocratie,
oui,
ce que j'avais appelé la dictature de l'urgence, les marchés, les médias sont sur un rythme qui est le rythme de l'immédiateté. La démocratie est sur un rythme qui est plus long, mais qui n'est pas le rythme du long terme. Et le problème n'est pas le peuple, c'est y compris que les responsables politiques, leur responsabilité est en jeu au terme d'un mandat qui n'est pas le mandat du changement climatique. Bon, et donc, les changements qu'ils peuvent mettre en branle et qui vont remettre en cause des choses, y compris sur le plan social, ont un coût politique, un coût démocratique. Et donc, ce qu'il faut, c'est réussir à articuler la question sociale, la question environnementale et la question démocratique. On va pas, on ne peut pas, je crois,
mais
traiter...
Mais qui y arrive aujourd'hui? Et qui arrive à faire cette synthèse?
C'est le défi qui est...
C'est le défi. Qui est c'est le défi. On y a... Moi, ce qui me fait rire, c'est quand Yannick Jadot... ou Cormand, ou Diz, tous ces écologistes les plus intelligents du monde, qui savent tout, qui ont toujours tout su, et tout ça, qui disent, l'écologie est incompatible avec En Marche.
Avec La République En Marche, c'est ce que disait David Cormand sur notre antenne cette semaine.
Moi, je vais vous le dire, camarades écologistes, écoutez-moi bien. Dans un an ou plus tard, les Verts allemands seront au pouvoir. Ou ils seront en coalition simplement avec la droite, ou ils sont eux-mêmes qui seront chanceliers, mais avec la droite. La droite allemande, elle n'est pas mieux que La République En Marche. Les Verts font le pari et la nécessité, vu l'urgence, que pour changer les choses, eh bien, il faut passer par un compromis avec cette partie de la société. Si vous dites, demain, qu'on ne peut pas, avec La République En Marche, ou avec Madame Merkel et son parti, etc., vous dites que demain, la transition écologique n'est pas possible. Parce que quand les écologistes, avant qu'ils aient 50% dans un pays, si on s'en tient à la démocratie, et si on attend que la gauche en France renaisse, on est mal barré, les enfants. On rentre à la maison, on est foutu, hein. Donc on arrête avec ça. Il faut, dans les conditions de la politique, c'est-à-dire si demain les Français mettent La République En Marche à 25%, les écologistes à 25%, ils seront obligés de faire une coalition.
Il faudra faire une alliance.
Eh ben, bien sûr.
Natacha Polony. Il y a des questions politiciennes d'alliance,
c'est
bien entendu, qui vont se poser.
C'est pas politicien, c'est une fois, c'est ça, non, la démocratie.
Oui, c'est...
Mais politicien, oui, c'est mal poli.
C'est politicien dans la
c'est
mesure
mauvais,
où
ça mauvais
la
goût,
question
ça mauvaise haleine, politicien.
Dans la mesure où ça peut parfois amener à des contradictions qui sont des contradictions majeures.
Oui,
or,
c'est
tout
comme
le problème
quand on fait
est de savoir
un journal comme Marianne.
On essaye d'éviter les contradictions
bah,
majeures.
Alors là, je peux vous en montrer
on
toutes
essaye,
les semaines.
On essaye
hein.
d'avoir un tout
ouais,
petit
ouais,
peu de
ouais, ouais, ouais,
vous
ouais.
confondez
revenons
le pluralisme
à la question
et la cohérence.
Non, des et la démocratie.
Ensuite, je pense que si on prend un exemple concret, par exemple, la question des traités de libre-échange avec le Mercosur, avec le Canada sur le CETA. Voilà. Vous avez une politique intérieure qui consiste à mettre des normes de plus en plus strictes pour imposer un type de production qui soit à peu près propre, qui ne détruise pas la terre, qui essaye de respecter aussi un tout petit peu le bien-être animal. On en est très loin, mais on avance un tout petit peu. Bref, ce que certains peuvent prendre pour des contraintes. Et je pense, moi, que ce sont des bénéfices. Mais à partir du moment où vous signez des traités de libre-échange qui permettent de faire rentrer des produits qui, évidemment, n'ont absolument pas les mêmes normes, parce que c'est vrai qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas les mêmes normes, et qu'en plus, ils relèvent, et ça c'est beaucoup plus, c'est sur le plan économique plus qu'écologique, ils relèvent d'un type d'agriculture qui est une agriculture industrielle, qui détruit mécaniquement par la baisse des coûts l'agriculture paysanne,
eh
bien,
mais,
ça ne
mais,
peut
mais,
pas
mais,
marcher.
Oui, mais la
donc,
même chose, la même
on a maintenu
chose pour
ces traités,
la même chose pour
ça veut dire que là, pardon, ce n'est pas compatible.
C'est la même chose pour l'agriculture intensive française avec le blé, et que la France est liée à l'exportation du blé, et que si on ne fait pas des accords d'échange, eh ben la France ne pourra pas exporter du blé. Il y a une partie de l'agriculture française et du bilan de la France qui aura du mal. Donc c'est pas toujours les autres. Mais je veux dire autre chose par là. Oui, moi, je suis très d'accord qu'on ne fasse pas cet accord de libre-échange avec le Mercosur. Je suis tout à fait d'accord de dire regardez ce que font les Brésiliens. Seulement, même si on ne fait pas cet accord, on ne sait pas comment obliger Bolsonaro à arrêter de mettre le feu à l'Amazonie. Et c'est pas en ne faisant pas l'accord du Mercosur, parce qu'à la fin, il s'en fout.
Oui, d'accord, mais on aura évité de tuer les paysans français, peut-être.
Non, mais je parle enfin, d'un problème. Est-ce qu'on peut rester sur un problème?
Sur
je
un dis, sujet comme celui-là.
Sur un sujet de l'Amazonie, quand les écologistes reprochent à Macron de ne pas faire assez pression sur Bolsonaro, je dis, d'accord, on ne fait pas l'accord Mercosur, mais ça ne changera rien au comportement de Bolsonaro.
Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un droit d'ingérence climatique comme ça a pu être proposé de la même manière qu'on a pensé il y a une vingtaine d'années un droit d'ingérence humanitaire ?
On l'a pas pensé. Le droit d'ingérence humanitaire est une décision de l'ONU.
Oui.
Donc si vous arrivez à avoir un accord à l'ONU, c'est jouable. Mais ça ne peut pas être décidé entre la France, les États-Unis, l'Allemagne, je ne sais pas. Ça se joue à l'ONU. Et quand on sait l'obligation de défendre, donc le droit, le devoir d'ingérence quand un peuple et les difficultés qu'on a eues dans l'histoire, c'est quelque chose qui se dit rapidement, mais qui est extrêmement difficile à mettre en place démocratiquement.
Il y a peut-être quelque chose de plus efficace rapidement, c'est tout simplement de revoir notre mode de production de viande. Parce que, là, certes, on ne peut pas agir directement sur Bolsonaro, mais les feux en Amazonie, ils sont liés au commerce du soja OGM qui sert à nourrir notre viande de production industrielle. Juste, donc défendre une activité rurale, paysanne, et donc un élevage de qualité, ça limite
on est d'accord
forcément.
Seulement, remplacer les, je sais pas, 70 ou 80% de soja qu'on importe, ça mettra des années à pouvoir
mais
le faire.
Mais on n'a même pas commencé.
Mais je suis d'accord, mais je dis que entre dire il faut changer, ce que je dis moi aussi, et le temps dont on a besoin pour arriver à ce qu'on n'ait plus besoin d'apporter du soja. Et ça, ça met une dizaine d'années au moins. C'est ça qu'il faut dire aux gens.
Et il faut le dire aussi aux Chinois, il faut le dire aux Indiens qui par centaines de millions découvrent par exemple la viande rouge et qui ont envie d'en consommer. Et si les Brésiliens n'exportaient plus leur
tourteau
de soja...
Si on lit à France Inter, les Chinois, ils n'en ont rien à cirer. Hein.
C'est ça la question.
Je veux dire, il faut le dire aux Chinois. Ça, c'est encore quelque... Comment on fait entendre quelque chose aux Chinois? Il y a la méthode Trump, qui ne me paraît pas la bonne, et l'autre... Quelle est l'autre méthode?
Ah bah je vous pose la question, c'est vous qui incarnez l'écologie politique.
Moi je suis pas là pour dire il faut. Oui, c'est évident que le problème c'est pas le problème de la transition écologique. Ça se joue chez nous parce qu'on peut donner l'exemple, mais ça se joue en Inde, ça se joue en Chine, ça se joue en Russie et ça se joue aux États-Unis. Et que pour l'instant personne n'a le levier démocratique, voire l'Inde, voir la Chine, voir les États-Unis, voir la Russie, pour que eux, ils trouvent la force de réforme pour changer leur mode de vie ou leur mode de production d'énergie.
Gilles Finkelstein. Oui. Enfin,
ces questions-là, elles ont été posées exactement dans les mêmes termes il y a 4 ans au moment des accords de Paris. Et tous ces pays-là, avec leurs propres contraintes, leur envie de consommer de la viande, etc., ont signé les accords de Paris.
Juste.
Et je crois qu'il y a une forme de condescendance aussi dans la manière dont on regarde, y compris les Chinois, qui, sur la question environnementale, pour des raisons qui ne sont pas liées aux générations futures, mais simplement à la capacité de respirer dans les grandes villes chinoises et, en réalité, à la stabilité du système chinois, sont extrêmement sensibles à cette question-là.
T'es d'accord, mais il y a quelque chose que t'as dit tout à l'heure qui n'est plus là, en ligne de compte. C'est pas très démocratique.
Ah, c'est alors ça, ce qui est
non,
certain.
On peut prendre le cas américain. En l'occurrence, c'est une démocratie. Ils sont sortis des accords de Paris, et c'est vrai que
et les Chinois, c'est vrai, font des énormes efforts. Et je crois que les antinucléaires doivent se poser une question en France. Moi, je trouve que c'est très bien que l'Allemagne soit sortie. Mais si l'on veut qu'il y ait une amélioration rapide en Inde ou en Chine. Ils peuvent pas sortir du nucléaire.
Natacha, j'aimerais revenir sur une question que vous souleviez, Daniel Cohn-Bendit.
On peut pas non plus passer son temps à dire que le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir agir sur l'Inde, qu'il faudrait pouvoir agir sur la Chine. On sait que pour l'instant, on ne peut pas. Donc la question, c'est que pouvons-nous faire politiquement à l'échelle de notre démocratie? Ben oui, mais donc arrêtons de se dire l'Inde, la Chine. Non. Regardons, or, nous sommes dans un système qui est un système, et c'est pas, encore une fois, la faute des envies, des besoins des gens, c'est plus vaste que ça. Nous sommes dans un système qui est en train de détruire les terres arables, qui est en train de détruire toutes les petites filières, qui est en train de favoriser une grande distribution qui, peu à peu,
est-ce qu'il faut arrêter d'exporter du vin français, Natacha?
Non, mais je termine ce que je disais.
La question est pertinente.
D'abord, je termine ce que je dis, et ensuite je réponds. Donc, il y a actuellement une prise de conscience sur les limites, les limites sociales de ce mode de vie, c'est-à-dire qu'on en voit les conséquences et beaucoup de gens commencent à se réveiller en se disant que ça ne les rend pas heureux, que ça ne leur plaît pas, que ce n'est pas ça qu'ils ont choisi. Donc, si on pouvait s'appuyer là-dessus pour voter, par exemple, des règles, je ne sais pas moi, un moratoire sur l'extension des grandes surfaces, d'où ce genre de choses qui limiteraient. Ça n'a pas été fait. Donc, tant qu'on ne fera pas ça, on pourra venir pleurer sur l'Inde ou la Chine.
Et l'exportation du vin français ?
Alors, l'exportation du vin français, commençons déjà par travailler sur la reconversion de la plupart des vignobles français pour qu'ils arrêtent d'être les premiers consommateurs de pesticides. Alors, bien sûr, c'est compliqué parce que le raisin, c'est fragile, qu'il y a des maladies spécifiques et que tout le monde ne peut pas passer en bio.
Tu parles à côté.
Je ne parle pas à côté.
Moi, je suis avec des copains en communauté, on a une maison dans un village de l'Hérault. Les grands producteurs de vin n'utilisent pas de pesticides et ils doivent exporter. C'est un vin de très grande qualité.
Mais je vois pas pourquoi. J'ai pas dit qu'il fallait arrêter d'exporter tout.
C'est-à-dire non, mais c'est les pas, produits qui ne peuvent pas, pas tout, je te
bah
dis
oui,
que
donc,
eux,
les produits
eux,
qui ne peuvent pas être remplacés, on peut les exporter.
La plus-value qu'ils ont dans l'exportation, ça ne marche pas. Et que deuxièmement, les autres, ils ont absolument besoin du marché européen. Si le vin n'était que localement consommé, ils ne peuvent plus survivre. Donc, il faut qu'on retrouve aussi une manière intelligente de l'échange, du libre-échange dont on a je dis pas que j'ai la solution.
C'est donc un libre-échange régulé.
Alors c'est ça, je ne dis pas le contraire.
Pas voilà. Alors, oui, pas vous n'êtes pas des traités à Berlin.
Oui, évidemment, c'est un libre-échange qui est davantage un libre-échange régulé. Et c'est vrai sur cette question-là, comme sur beaucoup d'autres questions, on a mal documenté scientifiquement ce qu'étaient les effets d'un certain nombre de choses sur le changement climatique et sur l'empreinte carbone. Et donc ce travail-là, il va falloir le faire dans l'urgence pour savoir, dans le commerce international, qu'est-ce qui est réellement néfaste, qu'est-ce qui est le plus néfaste et ce qui ne l'est pas. Il faut commencer par nous, sans aucun doute, puisque c'est là où on a davantage de leviers, nous, Français,
nous, France Inter,
nous, Européens. Mais il ne faut pas oublier les autres, d'abord parce que c'est plus important en termes d'émissions, et parce que si les Français, si les Européens n'ont pas la claire conscience que les autres font aussi des efforts, ça sera beaucoup plus difficile d'en faire chez nous. Mais donc, commençons par nous, Français, nous, Européens. Et je crois que la bonne méthode pour le faire, c'est qu'on a fixé un objectif, qui est un objectif très ambitieux, qui est neutralité carbone en 2050. C'est un objectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça le travail qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça veut dire secteur par secteur, comme changement de comportement, à quel rythme et avec quelle compensation ?
Et qu'est-ce qu'on fait avec le plastique ? Qu'est-ce qu'on fait avec des tas de sujets, Daniel
Cohen ? Il faut tout reprendre à zéro. Le plastique, ça, c'est pas un problème. On est contre tous. Il faut voir. Le problème réel.
On est contre
tous. Pour moi, vous avez pas de problème. Vous avez pas de problème. Non, presque tous. Je donne un exemple. J'adore la viande. C'est vrai que c'est un vrai débat que j'ai avec moi, consommer moins de viande, meilleur et tout ça. Et je suis sûr qu'il y a des millions de Françaises et de Français, s'ils sont sincères, ils sont dans mon cas. Ils sont dans mon cas de dire, on a compris qu'il faut consommer moins de viande, mais maintenant, avec nos envies, avec nos habitudes, c'est une lutte intéressante, collective, de discussion, qui fait comment la cuisine, etc. Donc voilà, c'est ce que je veux dire.
Mais c'est pour ça que je vous parlais de responsabilité individuelle d'un côté et de passer par la loi et la coercition de l'autre. Vous avez parlé du temps long, de l'inadaptation de la démocratie au temps long. Est-ce que vous n'êtes pas de votre côté assez critique quand vous regardez le discours des collapsologues, ceux qui pensent que la civilisation humaine va vers son effondrement, que la catastrophe a déjà commencé, que l'absence de futur est devant nous et qu'on en a pour 10, 20 ans, 30 ans.
La civilisation humaine est déjà morte à Auschwitz, pour dire la vérité. Notre histoire pullule de moments où nos civilisations sont effondrées, où le cœur même de ce qu'on appelle la civilisation n'existait plus. Donc il est possible aujourd'hui que face à la planète, notre civilisation est en train, en fait, d'aller contre le mur. Mais on a survécu à l'Holocauste. On a survécu, il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu. Et je crois que cette conscience de dire c'est obligatoire de... Non, à partir du moment où cette alerte est donnée, à partir du moment où nous avons ce genre de discussion,
oui,
nous allons vers un changement.
Mais à ceux qui vous disent on est sur le Titanic, on est sur le pont avec les musiciens, c'est le syndrome du Titanic, on va...
Oui, mais tout
l'iceberg.
Ça, c'est du baratin.
C'était le titre d'un film de Nicolas Hulot, et c'est une expression
Le film est très mauvais. On regarde ce film de Nicolas Hulot, on sort de ce film, je sais, il m'en a voulu, je l'ai dit à la sortie. Donc,
Parce que c'est un film sombre et accablant.
Et j'ai dit, et alors ? Et alors ?
Et alors, c'est faut pas... le gérer politiquement.
Non, oui, mais on le gère politiquement, c'est pas dans... La politique se fait pas dans l'angoisse.
Ni
ça, je le crois.
Et ni dans la résignation.
Non, mais ça se fait pas non plus dans le déni.
Natacha, personne ne dit qu'il faut dénier. Je dis simplement qu'à partir du moment où on a conscience de l'urgence écologique, si on me dit que de toute façon on est sur le Titanic et qu'on n'a pas pu arrêter le Titanic, ben j'arrête.
Mais si on nous explique maintenir le même système économique et qu'il faut maintenir les mêmes processus qui aboutissent à ça, c'est la politique qui est menée. Il suffit de regarder ce qui est fait. J'en reviens au traité de libre-échange pour voir qu'il y a un énorme problème. C'est-à-dire ces traités continuent à être signés dans l'absence de transparence la plus totale. Et ça maintient un système qui enrichit les intérêts.
C'est pour cela que le gouvernement français a raison et que toutes les négociations aujourd'hui doivent être plus ouvertes. Tout ça, je suis d'accord sur l'absence de transparence et tout ça. Seulement,
qui n'est pas une transparence française pour le coup, qui est une transparence européenne.
Européenne. Je veux dire simplement qu'aujourd'hui, entre les discussions sur les accords des échanges il y a une quinzaine d'années, et ceux aujourd'hui sur le CETA, on peut être contre le CETA, je ne suis pas pour... Je trouve qu'il y a une amélioration.
Mais parce qu'il y a des gens qui se sont mobilisés.
C'est ce que
je viens
de dire.
Parce qu'il y a eu des manifs monstrueuses, parce qu'il y a eu des peuples qui se sont révoltés.
C'est ce que je dis. Donc on n'est pas sur le Titanic.
Mais c'est pas vu d'en haut. C'est pas
qui
vu d'en haut.
Parce qu'on peut changer.
C'est une pression. Et ceux qui s'élèvent contre ça,
sont des choses que je ne dis pas. C'est parce qu'il y a ce débat public. C'est parce qu'il y a ces manifestations. C'est parce qu'il y a une évolution de la conscience de nos sociétés que les traités de libre-échange changent. Donc, le système économique, c'est ce que je veux dire, est en train de changer.
Mais Dany, vous faites partie de ceux qui ont traité de populistes, tous ceux qui attaquaient l'Union européenne dans son fonctionnement.
L'Union européenne au nom d'un nationalisme.
Mais non.
C'est vous qui le décidez. Toi, tu n'arrêtes pas de décider ce que je dis. Pour une fois, je dis que la manière d'attaquer l'Union européenne d'une manière nationaliste, et l'on voit.
Non,
les
c'est
populismes
pas
en Allemagne, et l'on voit ce qui se passe en Angleterre et le Brexit,
vous avez réduit au nationalisme tous ceux qui critiquaient ce système qui aboutit à la catastrophe écologique actuelle.
Si on a détruit le nationalisme, Inch'Allah.
Mais c'est pas le nationalisme que vous avez détruit.
On a bien fait.
Vous n'avez pas détruit le nationalisme, vous le faites monter.
Ça, je crains qu'on ne l'ait pas totalement détruit et qu'il se porte malheureusement mieux.
Mais il se porte d'autant mieux que justement il y a des colères qui naissent de cette incapacité à changer le système.
Mais je crois que c'est une des chances du moment, pour le coup. C'est une des chances du moment, c'est que la prise de conscience de l'opinion est dans un laps de temps très court. C'est rare de voir des mouvements d'opinion aussi important. Je vous donne juste une illustration. En 2015, en plein cœur de la crise migratoire, lorsque vous demandiez aux Européens quelles étaient pour eux les priorités de l'Europe, 58% disaient priorité numéro 1, l'immigration, 6% disaient l'environnement. 52 points d'écart. 4 ans après, c'est pas beaucoup 4 ans.
Aujourd'hui,
on est pratiquement au même niveau pour les Européens. Ce sont des mouvements qui sont d'une ampleur considérable. Ça ne veut pas dire que, et ça serait une erreur de le penser, que l'écologie soit la seule préoccupation.
Non.
Mais c'est une préoccupation majeure au milieu de ce que je disais tout à l'heure, les préoccupations sociales, et vraiment le travail qu'on doit faire, c'est comment on articule, à quel rythme et selon quelles priorités.
Et avec quelle figure, justement, qui incarne cette prise de conscience? Vous mettez Daniel Cohn-Bendit parmi ceux-là, ou est-ce que vous pensiez à Greta Thunberg et aux mobilisations des lycéens, par exemple, qui font grève pour le climat?
Moi, j'ai pas besoin de figure, mais...
D'abord, moi, je suis vieux et à la retraite.
Vous avez
l'air
très en forme.
Je suis pas l'incarnation de quelque chose, de quoi que ce soit. Mais moi, je me refuse à dire c'est plutôt Greta Thunberg, c'est plutôt ceci. Non, c'est la somme de tout ça. C'est la somme de tout ça. Et quand on est jeune, on a une autre dynamique. C'est ce que je dis, par exemple, je vous l'ai dit, que les Verts seront au pouvoir dans un an. Eh bien, les mouvements qui aujourd'hui soutiennent les Verts diront c'est pas assez. Et c'est normal. même si les Verts, même qui veulent tous les changements, non, ça sera pas assez, parce que la logique du compromis, du changement en démocratie, n'est pas la même logique d'un mouvement. C'est comme ça.
La prise de conscience, elle vous semble, comme le disait Gilles aujourd'hui, très largement répandue. C'est un problème qui est réglé maintenant. La question, c'est celle des moyens d'action. Ou est-ce que ce travail-là est encore à faire?
Non, mais ce travail-là est encore à faire parce que, de toute façon, la prise de conscience n'est pas justement suffisamment complète, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une peur qui se fait face à des choses extrêmement concrètes. Il a fallu du temps quand même pour qu'on prenne conscience que 80% des insectes ont disparu, ou par exemple pour qu'on prenne conscience que les questions d'eau vont être absolument majeures dans les années à venir. Là, il se trouve que on est obligé de regarder en face.
Mais Nathalie, maintenant, tu avais toujours conscience de ça.
C'est Dany et Natacha.
Ouais, c'est Max. Pardon. Est-ce que tu avais toujours conscience de ça?
Je prétends pas être plus maligne que les autres.
Non, mais alors ça veut dire qu'on a tous et que la société avance.
Oui, et heureusement. Heureusement.
Bah mais voilà, c'est ça. C'est non, voilà, on est d'accord.
Simplement, là où nous ne sommes pas d'accord, c'est sur le fait que ce que j'entends beaucoup dans les discours écolos, c'est l'idée que ça va être, il va y avoir une casse sociale, faut expliquer aux gens, sous-entendu, c'est les gens qui posent problème par leur mode de vie et c'est en gros le citoyen de base qui serait réfractaire.
Non.
Or, il me semble que le système économique tel qu'il est et les intérêts des multinationales qui, elles, entraîne et vivent de ce système, c'est
la majorité
au moins
des Français
aussi
veulent une
puissant,
voiture,
c'est
et veulent
au moins
rouler en voiture.
Aussi puissant que le mode de vie des individus.
La majorité des Français roulent en voiture, veulent une voiture.
Mais on a construit des villes qui font et on a éloigné le travail.
Mais c'est aussi
donc
une envie.
Ils n'ont pas le choix.
Il y a les deux. Il y a à la fois l'envie, parce qu'il y a une dimension culturelle maintenant ancrée depuis des décennies. Dany a raison. Mais il y a par ailleurs, dans beaucoup d'endroits, c'est une nécessité absolue. Il faut quand même avoir l'honnêteté, la lucidité de le reconnaître. J'entendais David Cormont il y a quelques jours dire on a
donc
qu'à se priver de voiture. Oui, il y a un certain nombre de grandes villes, à Paris notamment, dans lesquelles le poids de la voiture diminue de manière considérable et très rapide, mais il y a beaucoup d'endroits en France où
possible.
On ne peut pas vivre
pas
sans sa voiture.
En France. Donc à partir de là où on mise sur un saut technologique, que les voitures ne soient plus nuisibles écologiquement, c'est pas à moi de dire si c'est possible ou pas, mais je dis simplement que aujourd'hui, entre les phénomènes culturels de ce que la majorité des gens aiment manger, boire, de la manière dont ils veulent vivre, et la nécessité de changement, oui, il y a une responsabilité collective qui est difficile à réaliser.
Dernière
c'est pas
question.
Parce qu'ils sont trop bêtes, ils sont comme nous tous.
Daniel Cohn-Bendit, avant de passer au conseil culturel, j'aimerais juste que vous nous disiez dans ces cas-là, pourquoi ne pas désirer un changement radical ? Celui dont parlait Natacha, qu'elle évoquait, un changement radical dans notre manière de vivre, mais dans notre manière de produire, dans le système économique. Au fond, pourquoi est-ce que l'écologie politique ne nous amène pas à devenir tous révolutionnaires?
Eh bien, parce que justement, on a appris dans l'histoire, c'est pas parce qu'il y en a des gens qui désirent la révolution qu'elle arrive. Et parce que nous sommes dans des sociétés où il y a des contradictions. Que les changements dont rêve Natacha, de structure et tout ça, eh bien, ça serait un grand débat dans la société française. Avec raison. Et donc, que le problème des révolutionnaires, de ceux qui veulent tout changer, c'est que, ou ils prennent le pouvoir, ils se foutent des majorités, ou démocratiquement, ils ont un problème. Parce que les écologistes, aujourd'hui, même s'ils font 13% aux européennes, ils ne font que 13%.
Gilles Finkelstein.
Oui, sur le mot radical, le social-démocrate que je suis évidemment à de la distance par rapport au si on entend par là un changement brutal, un changement pour le coup antidémocratique et un changement dont on pense qu'il pourrait être immédiat.
De notre
en
mode
revanche,
de vie.
Une réflexion sur radical au sens qui va à la racine du système économique, ça, c'est fondamentalement, c'est ce à quoi nous invite la mutation écologique à laquelle on doit procéder. Donc radical en ce sens-là, oui.
Oui, mais c'est le temps qu'il faut y arriver. Mais le problème, c'est un système économique, c'est une culture de vie aussi à la fin, qui est ancrée dans nos sociétés. Bon, c'est comme ça. Je veux bien. Si c'était si facile d'être révolutionnaire et d'avoir compris tout, Marianne aurait 5 millions De lecteurs.
Ouais, ça viendra.
Tout le monde se jetterait dessus. Libération, on aurait 25 millions, alors que je sais pas. C'est-à-dire que même
et vous
si
aussi vous avez rêvé de changer le monde un jour.
Oui, mais j'ai pris. Mais moi, j'ai rêvé de changer le monde et j'ai aussi compris les conneries qu'on a dit à cette époque.
Oui.
Et moi, j'avoue que je veux pas recommencer à chaque fois qu'il y a un problème très dur à résoudre par les mêmes conneries.
À ceci près que je souscris à la définition de ce qu'est la radicalité. En effet, il est nécessaire de revenir à la racine. Mais je trouve étonnant de voir aujourd'hui tant de, on va dire, de prudence sur la question démocratique à propos des questions écologiques. On s'est pas embarrassé de démocratie quand il a été, quand on a voulu imposer ce système économique et les structures qui vont avec, notamment
rengaine,
l'Union européenne.
C'est
mais c'est pas une rengaine,
rengaine.
C'est que
années,
je crois profondément
pas,
hein. À la démocratie.
La même chose, hein.
Non, c'est pas la même chose.
Bah, la
je vais à la racine.
Défend,
je vais à la racine des problèmes et en effet la question démocratique est majeure, mais il faut la poser en entier et sur tous les sujets.
Oui, mais la question démocratique.
D'un mot.
La question démocratique, Marine Le Pen n'a que 24%, donc c'est pas toute la France. Macron n'a que 25% ou 24 ou 23 ou 22 ou 26 ou 27, ce n'est pas toute la France. Les écologiques n'ont que 13%, la droite n'a que... Et c'est pour ça que la politique, au point de, quand on veut des décisions, c'est-à-dire des majorités dans une assemblée parlementaire, eh bien, c'est assez difficile de trouver ces majorités et des compromis qu'on doit faire.
On va en rester là sur la
juste une
politique.
Phrase, ça, c'est ce que dit Dany est juste, partout en Europe, sauf en France où notre système institutionnel oui. fait qu'on peut gouverner et on peut décider avec des majorités plus étroites.
C'est ce qu'on a vu avec Hollande.
Avant de se séparer, le Conseil culturel, vous êtes venu avec un livre à recommander ?
Oui. J'en ai lu 50 pages, mais c'est absolument fascinant. Il vous aspire, c'est Piotr Smolar, mauvais juif, qui est une réflexion sur lui, sa famille, son grand-père, et la réalité qu'il a découverte et suivie quand il était envoyé du Monde en Israël.
Parce que c'est un journaliste du Monde, un grand journaliste.
Un grand journaliste,
Smolar,
donc
c'est
mauvais juif,
chez
Équateur. Et ceux qui aiment bien la musique, Talila, mon Yiddish blues, c'est absolument merveilleux. C'est des chansons yiddish que plus personne n'écoute. C'est dommage parce que c'est d'une extrême beauté.
Gilles.
Eh bien, moi, ça va être une exposition en région, comme on dit, une exposition sur les cabinets de curiosité à Landerneau, qui est absolument formidable, dans laquelle on déambule entre les papillons du Muséum d'Histoire Naturelle, des collections de boîtes de sardines, ou les sabliers de Jacques Attali. C'est près de Brest, c'est à quelques kilomètres de Brest. Comment on y va?
Très bonne question de Daniel Cohn-Mendieta.
On y va en train.
Et après?
Après, on peut prendre la voiture pendant un tout petit bout.
D'accord.
Et c'est jusqu'à la fin du mois de novembre.
Merci du
Fondation
conseil.
Leclerc.
Et donc, c'est une exposition sur les cabinets de curiosité. Natacha.
Et moi, c'est un petit livre qui traînait sur mon bureau et que j'ai fini par ouvrir parce que le titre est absolument magnifique. Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Réflexion sur l'effondrement de Corinne Morel-Darleux. C'est une sorte de méditation un peu mélancolique sur ce système consumériste d'une société qui déborde, qui est à la fois obscène et obèse à coups de porte-containers et de choses comme ça. Et Corinne Morel-Darleux propose tout simplement ce choix de refuser de parvenir. Oui, elle fait la différence entre, elle construit une différence entre refuser de réussir, alors que cette ouverture-là est intéressante et aboutit à un espoir, et l'idée qu'il faut s'empêcher de vouloir parvenir, c'est-à-dire obtenir à tout prix quelque chose qui relève de la réussite apparente, qui relève de la superficialité.
On veut parvenir.
Non.
Quand on est amoureux.
On veut s'ouvrir.
Ah, sujet, on n'arrivera pas à vérifier.
Ah non, moi je crois quand on est vraiment amoureux, on veut aussi parvenir.
Ouais.
Sinon, c'est frustrant.
Je ne crois pas. Je crois justement qu'on veut absolument s'inscrire dans cet ici et ce maintenant qui nous empêche d'essayer d'accumuler.
Où la personne à laquelle on est amoureux veut ou ne veut pas. Et on veut parvenir.
On veut y arriver.
On veut y arriver.
Quoi, on veut pécho.
C'est pas ce... Alors, vous lirez ce livre et vous verrez que ce n'est pas dans ce sens-là que le terme
ça fait rire Gilles Finkelstein, qui n'est pas intervenu dans cette discussion sur l'amour, mais vous aurez l'occasion de vous exprimer sur le sujet. Gilles, c'est promis. Merci infiniment, Daniel Cohn-Bendit, d'avoir été l'invité du Grand Face à Face. Bonne rentrée. Merci à Mathilde Klatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Mathias Alléon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques avec la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. À suivre sur France Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.